Bienvenue à toutes et à tous pour l'émission spéciale de News FM consacrée à la troisième édition de la Biennale des villes en transition. Un grand événement consacré aux transitions sociales, écologiques et démocratiques. Je suis votre hôte, Noam, et il y a Namou qui m'accompagne aujourd'hui.
Salut à toutes et à tous.
Du coup, cet après-midi, on vous a préparé avec l'ensemble des chroniqueurs et chroniqueuses d'Actua Street une série d'interviews consacrées au thème de la Biennale et au programme émergent dont on va parler tout de suite avec notre premier invité.
Donc pour la première interview de l'après-midi, nous avons le plaisir de recevoir un invité de marque, j'ai nommé Walidia. Bonjour et merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Donc humoriste, comédien et dernièrement devenu chroniqueur dans l'émission Par Jupiter sur France Inter. Peu de gens le savent, mais tu es originaire de Grenoble.
Je le crie pas mal. Quand même.
raconte-moi un peu ton parcours et ce qui t'a mené vers l'humour. Voilà.
J'avais la vingtaine à Grenoble et je dansais à l'époque. En fait, j'étais dans le break, etc. Et je me rendais compte que la sensation que je préférais, en fait, c'est quand j'arrivais à faire rire pendant les shows qu'on faisait, même pendant les battles, etc. C'était le lien, la connexion avec le public que j'aimais travailler, et le problème, c'est qu'à cette époque-là, à Grenoble, on n'avait pas d'endroits comme des petits cafés-théâtres, etc., des petites scènes ouvertes pour démarrer, et j'ai un pote qui s'était expatrié à Nantes, et là-bas, il y avait un peu cette culture-là, de petits comédie-clubs un peu à l'américaine, où parce que j'avais pas envie d'aller à Paris, je suis un provincial, moi, plus tard ça arrivait à Paris, mieux c'était, et donc je suis allé là-bas, et il y avait la cave d'un bar où on pouvait jouer. Donc on jouait devant des gens bourrés, mais on jouait. Et du coup, c'est là où je me suis dit, si des gens alcoolisés comprennent ce que je raconte, des gens qui peut-être un jour paieront leur place pour la même chose. Et j'ai fait ça, puis de fil en aiguille, je suis allé un peu faire la même chose à Paris. Puis voilà, après ça allait un peu vite avec On ne demande qu'à en rire, plus le Jamel Comedy Club un peu dans le même truc, puis le Marrakech du Rire, puis machin. Puis en fait, c'est des enchaînements de choses. Qui font que ça devient ton métier à un moment donné. Et puis, au bout d'un moment, t'en es là. Quoi.
D'accord. Et c'était un projet de... c'était un peu tombé dessus par hasard.
Ouais, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu.
D'accord.
Même avec le recul, je me rends compte même beaucoup trop tôt parce que je ne savais pas encore ce que je voulais vraiment faire. Même avec ce métier-là, je ne savais pas quelle portée il pouvait avoir, quel propos tu peux tenir, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui que tu ne penseras pas dans 3 ans. C'est plein de choses qui sont allées très très rapidement, mais évidemment que je préfère que ce soit passé comme ça et que ce soit devenu mon métier plutôt que ça n'arrive pas.
Mais du coup, aujourd'hui, on voit que tu es un artiste qui est quand même très médiatisé, et justement, on voit que tu prends cette audience pour faire parler de tes engagements, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec Twitter, ou même plus récemment avec les chroniques sur France Inter, où voilà, tu prends pas de pincettes, t'es assez...
Mais tu sais, beaucoup de gens me disent ça, moi j'ai pas l'impression d'y aller très fort, parce que j'ai l'impression de donner des évidences en fait. Tu vois, je suis pas plus subversif qu'un discours de Miss France. Hein. Je te dis, le racisme, c'est pas bien. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Enfin, tu vois, c'est
surtout dans les punchlines, quoi.
mais concrètement, si tu regardes mon propos, c'est juste de la logique. C'est aucun cas un truc. Je me définis pas moi comme subversif, pas du tout.
Oui, c'est sûr. Mais du coup, comment toi tu prends ces différentes tribunes qui sont à ta disposition pour dénoncer ou exprimer sur des thématiques qui te sont chères?
Ce qui est bien avec France Inter, c'est que c'est pas une radio privée. C'est une radio publique, et le problème des radios privées, c'est que tu vas avoir des intérêts économiques qui vont se clasher avec ce que tu veux dire, toi. C'est-à-dire que demain, je parle de je ne sais quoi, de l'énergie, de machin, on va me dire, ouais, mais quand même, Total, c'est 30% des pubs, donc tu vois, t'es mort. Ouais. Tu peux pas, t'as pas la même liberté que sur une radio publique. Donc c'est quand on m'a proposé de faire ça, je me suis dit, s'il y a bien un média où on peut dire ce qu'on veut, encore aujourd'hui, c'est sur la radio publique. Après, je le faisais déjà sur scène, mais sur scène, c'est à toi, c'est chez toi, etc. Et surtout, je pense que pour aller sur des sujets comme ça, etc., il me fallait du recul, il fallait que je prenne le temps de maîtriser mon art pour que ça ne desserve pas les propos que je veux tenir, en fait. Donc c'est en ça que ces chroniques-là et la scène, qui j'espère reprendra un jour, c'est les deux endroits où t'es le plus libre.
Et du coup, comment France Inter, c'est venu, c'est toi qui as approché France Inter ou comment
ça s'est fait encore comme un truc inattendu, c'est-à-dire que je suis allé en tant qu'invité d'abord dans l'émission. Et puis ça s'est bien passé parce que voilà, je voyais que les vannes que j'avais envie de faire en tant qu'invité, ça prenait bien. Il y avait pas, parce que j'ai fait d'autres émissions où des fois tu vas sortir exactement la même vanne. Mais puis tu vois que donc je me suis dit on peut être en famille là-bas, c'est possible. Et en fait du coup j'ai dit, c'est moi qui avais dit d'ailleurs, c'était Alex Vizorek à l'époque, je dis écoute, un de ces quatre, si t'as une place je fais un papier, mais une fois, c'était juste pour me dire voilà, je le fais comme ça. Puis je l'ai fait une fois et puis on s'est rendu compte que les auditeurs de l'émission appréciaient et ils m'ont proposé de revenir quelques semaines après, et puis c'est devenu régulier là depuis ça va faire une saison.
Parce que du coup, c'est chronique, c'est un nouveau exercice pour toi ou tu retrouves un peu des codes du One Man Show
C'est un peu, c'est différent. C'est différent parce que, alors même si ça rit avec les gens qui sont là, je le fais pas pour eux. C'est-à-dire que s'ils rient pas, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de dire, c'est, j'ai pas la même exigence que sur scène en termes de rythme, en termes d'écriture, c'est la même, mais. En termes de rythme, il faut pas se dire je suis dans une salle de spectacle, il faut que ça rigole toutes les 5 secondes. C'est pas ça. Là, c'est un propos que tu défends. Tant mieux si ça rigole dans le studio parce que ça te donne une énergie. Mais c'est surtout, voilà, il faut qu'à l'écoute, ce soit fluide, que les gens aient le temps de s'en prendre un peu plein la tête, mais que ce soit clair et intelligible. Et voilà, mais il n'y a pas de... pour moi, c'est la même chose. Ce que je dis là, je le dirais exactement la même chose sur scène. C'est juste peut-être la forme qui changera, mais je dirais la même chose.
D'accord, mais du coup, quand tu vois que c'est plutôt bien reçu par le public, ça te dit quoi sur tes engagements justement? Tu dis qu'ils sont partagés, ça te rassure?
Je me dis surtout que s'ils s'y retrouvent à ce point, c'est qu'on le dit pas assez.
Ouais.
Parce que sinon, ce serait banal. C'est-à-dire que si vraiment tout le monde partout allait te dire que il faut pas prendre les gens pour des cons, il faut pas être raciste, il faut pas être sexiste, si c'était le discours normal. Mes chroniques, elles passeraient inaperçues. Et c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire que si ce que je dis là, ça paraît justement subversif, etc., c'est qu'il y a un vrai problème. C'est qu'il y a un vrai problème. Donc ça en dit long sur le discours ambiant, surtout.
Eh bien, justement, à propos de ton engagement, au niveau local, tu participes là à la 7e édition d'Émergence. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur ton action auprès des jeunes grenoblois et grenobloises qui participent à cet atelier culturel?
Justement, c'est un truc complètement naissant. C'est-à-dire que j'ai l'impression aujourd'hui que je suis un peu plus en position d'aider qu'à mes débuts. À mes débuts, je m'aidais moi. J'essayais de garder une espèce de début de carrière. Et puis voilà. Et là, quand on m'a sollicité pour ce projet-là, je me suis dit c'est peut-être l'amorce de quelque chose que je peux faire pour ma ville, donner des clés, donner des conseils, donner des avertissements même parfois, qui sont utiles, que j'aurais bien aimé avoir. Au même âge, j'aurais bien aimé que quelqu'un, en plus qui vient de chez moi, qui connaît exactement le bus que je prends, le truc, qui connaît ma vie par cœur, et qui peut m'expliquer comment on fait pour se développer dans l'art oratoire ou autre. J'aurais bien aimé avoir ça, donc je me dis... C'est bien de l'avoir voulu, il faut le faire maintenant. si tu veux que ça se fasse, à un moment donné, il faut prendre les devants. Et puis c'est pas moi qui ai fait le plus gros, c'est le collectif Émergence qui a mis tout ça en place. Moi, je viens un peu en témoin de tout ça, en relais. Mais la vraie action, c'est Émergence H24 qui fait ça et qui va, j'ai vu ça ce matin, qui produit des choses chez les jeunes. Voilà, ils n'ont pas assez d'espace pour parler, il faut les créer et c'est ce qu'ils font.
Parce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur le programme Émergence et ton action dans le programme?
Alors, Émergence, ce que moi j'en connais, c'est vraiment aller demander... en fait, c'est aller demander leur avis aux gens. Et leur avis, ils l'expriment à travers soit des arts oratoires, que ce soit le rap, comme j'ai vu, le rap, slam poésie, déclamation, humour, etc. Et c'est arriver à construire quelque chose de concret localement, Émergence, parce que vraiment ils vont chercher des jeunes de tous horizons d'ici. Et ce que je peux moi apporter à ça, c'est que je pense que pour certains je peux représenter un aboutissement de ces choses là et c'est leur donner les clés qui m'ont manqué et parfois les prévenir des obstacles aussi qu'ils vont rencontrer. On n'aura pas les mêmes, les parcours c'est jamais pareil, j'ai pas de recette magique, je peux rien faire de miraculeux, mais voilà, il y a peut-être des bons virages à prendre et des choses à savoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est la formule quand tu allais, on revenait. fait, voilà. Moi, j'ai vu, je peux peut-être t'éclairer là-dessus.
Ouais, pour partager ton expérience. Voilà. Parce que du coup, toi, tu penses que quand tu as démarré le stand-up, il manquait ce genre d'initiative pour permettre justement à de nouveaux talents d'émerger?
Ouais, après, entre guillemets, je dirais pas on nous a rien donné ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était même pas dans la culture.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu envie de faire ça, il y avait eu quoi? Il y avait eu une saison du Jamel Comedy Club, ça venait d'arriver. Voilà, alors il y a eu une tradition du one-man show en France, hein. Mais c'était pas un truc accessible. Et puis, il y a un truc de représentation aussi, c'est-à-dire que tu vois Muriel Robin, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard, tu te dis, ok, ça c'est un métier. Puis tu vois Jamel qui le fait, tu dis, ah, ça c'est un genre de gars que je connais qui le fait. Puis après, tu vois Thomas Ndijol et Fabrice Eboué, tu dis, ça c'est des gars que j'ai vus, que je connais, qui font, donc je peux le faire. Et c'est à partir de là que tu commences à dire que je peux le faire. Mais c'est en ça que la représentation est importante.
Ouais.
C'est-à-dire que quand moi je voyais Pierre Palmade, c'était pas quelqu'un que je voyais dans ma vie. Donc je me dis, c'est des êtres de spectacle à part. Et donc voilà, donc c'est pour ça que les structures n'étaient pas là. Puisque c'était même pas un truc encore imaginé dans l'imaginaire collectif. Donc ces structures-là, il faut les créer. Ça passe par des projets comme Émergence, ça passe par moi, ce que j'ai envie de faire à Grenoble, etc. Maintenant, de donner tout ce que j'ai pas pu avoir moi, j'ai envie de le donner dans la limite du possible. Évidemment, je pourrais pas tout faire.
Mais justement, sur ce que t'aimerais faire à Grenoble, il y aurait des bruits, des rumeurs comme quoi t'aimerais organiser un festival d'humour dans la ville.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça serait justement réservé qu'aux talents de Grenoble ou il y aurait des grosses têtes d'affiche?
L'idée, moi je suis un enfant des festivals. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je suis allé jouer dans plein de festivals dans toute la France. C'était dingue, c'était mes premières tournées, quoi. Tu te retrouves dans des villes. Enfin, moi, j'hallucinais, c'est-à-dire que t'es payé, on paye ton train, ton hôtel, tu viens, tu joues, et c'est tout. Et je trouvais ça magnifique parce que c'est une vraie belle approche du métier où le public vient pour découvrir des gens. Ça crée une émulation dans la ville, il se passe un truc. On le voit même avec le festival de Marrakech, c'est-à-dire que c'est un truc. Aujourd'hui, c'est un des piliers du tourisme dans la ville. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'une ville comme Grenoble n'a pas ça, en fait? Pourquoi même dans des petits bleds, sans dénigrer les petits bleds, mais tu vois, dans des petits bleds où il ne se passe rien du tout, ils ont un festival d'humour qui dure 4-5 jours avec 30 artistes. Et à Grenoble, on n'en a pas. Je trouve ça absurde, en fait. Et je me dis... aujourd'hui, j'ai l'expertise pour organiser quelque chose comme ça parce que je connais ce métier et je connais les gens qui le font, donc je pourrais plus facilement faire venir des artistes. Et puis, je suis persuadé qu'il y a une scène grenobloise qui a juste envie d'avoir un rendez-vous, un truc pour exister, pour se faire voir d'abord de sa zone et puis pour sortir après. Donc, c'est un truc que j'ai dans la sacoche. C'est jamais facile à monter.
Oui, c'est
jamais facile à monter, mais je vais y arriver.
Mais justement, tu parlais d'une... Pardon, excuse-moi. Tu dis qu'il y a une scène grenobloise. T'en connais justement quelques-uns?
C'est ça mon problème. Ah, c'est d'accord. Que là, ce que j'avais fait, d'ailleurs, ce que je voulais faire, c'est qu'avant le Covid, je devais venir jouer à Grenoble. C'est-à-dire, j'avais ma tournée qui était prévue, etc. Et comme le Summum, je trouve que c'était une salle assez symbolique du truc, j'ai dit sur mes réseaux à tous les humoristes grenoblois, venez, vous allez tous jouer en première partie. Pas longtemps, mais je vais en prendre 5-6, au lieu d'en prendre qu'un seul qui joue 20 minutes, je vais en prendre 5-6 qui vont jouer 5 minutes, mais au moins, ce sera une introduction. Et donc, c'est là où j'allais commencer à rencontrer, en fait, plein de gens, quoi. Mm. Plein de gens où j'ai vu qu'en fait, il y en avait plein. Alors, on les connaît pas, on les voit pas, c'est normal, parce que c'est difficile d'arriver au début et d'exister, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur scène ou dans les médias. Et je me suis dit, c'est le moment de faire la connexion avec ça. Bon, le Covid m'en a empêché. Mais c'est l'idée. Je sais qu'il y en a. Il faut juste aller les chercher.
Ah, du coup, tu parles du Covid. Je vais rebondir dessus. Ça a stoppé ta tournée.
Ah, une balle dans la jambe.
Et donc, avec la potentielle date d'ouverture annoncée par le président, mi-mai, des lieux culturels, est-ce que tu prévois de te remettre, de relancer ta tournée ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui rentrent?
Ah, mais déjà, on n'y croit pas une seconde à l'ouverture mi-mai. Dire, c'est un truc, tu peux demander à n'importe quel professionnel de la culture aujourd'hui. C'est du vent, c'est du vent, c'est-à-dire qu'eux ne savent pas, ils font vraiment la stratégie du pansement sur la fracture, c'est-à-dire on va te dire ça, comme ça tu vas te calmer, Mais ça ne va pas se calmer, parce qu'on va bien voir que le 15 mai, personne ne peut rien faire. Et même s'ils ouvrent, ils vont ouvrir avec des jauges à 20%, 30%, c'est-à-dire que c'est impossible. Mm. C'est comme si on disait, on t'ouvre un resto, mais par contre, tu peux servir que deux assiettes. Donc ça ne marche pas.
Où est l'intérêt ?
Donc ça n'a aucun intérêt. La culture, évidemment, qu'il y a des métiers, des professions où on a besoin dans l'instant, hein, l'alimentaire, etc., il n'y a pas de problème. Mais bon, nous, on est les dernières roues du carrosse. Après, on s'organise un peu comme on peut. Moi, je suis pas partie des plus à plaindre. Je peux survivre à un an sans tourner, c'est pas grave. Mais bon, voilà, t'as plein de gens aujourd'hui. Alors, je sais pas si voilà, le système de l'intermittence, il est mal connu en France. Mais pour toucher son intermittence, il faut travailler. C'est pas juste je me déclare artiste.
Et voilà, on attend la fiche voilà. de paye.
Non, c'est qu'il faut travailler, il faut avoir des cachets. Ces cachets-là cotisent pour... Ton assurance, comme n'importe quel chômage, en fait. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas pu travailler, donc qui n'ont pas d'intermittence et qui crèvent la dalle, juste, et qui attendent. Et pour ces gens-là, je trouve qu'à un moment donné, sortir des dates pour rien, parce qu'un spectacle, tu peux pas le... Je veux dire, c'est pas une boulangerie, tu peux pas l'ouvrir le lendemain dès qu'on a dit que c'était ouvert. Non, il faut de la com, il faut que la salle soit libre, il faut que les gens puissent acheter des places, il faut... Pour l'instant, on fait comme si ça n'existait plus et puis on verra bien, mais clairement, oui, non, on n'y croit pas du tout.
Est-ce que tu penses que ça aurait pu être mieux géré par le gouvernement ?
C'est-à-dire que je vais faire l'inverse de ce qu'ils font. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas épidémiologiste, je ne peux pas dire il fallait faire ci, ça ou ça. Mais cette certitude qu'ils ont toutes les deux minutes à nous dire on a bien fait, ça c'était bien, ça on ne s'est pas trompé, alors que c'est une foirade depuis Buzyn, depuis sa première prise de parole. Ce qu'il aurait fallu faire, et c'est ce qui a été fait dans d'autres pays, il y a eu des études, là, par exemple, sur des concerts, sur des spectacles, etc., qui montrent que ce n'est pas une zone de cluster. Bon, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces études, faire quelque chose ? Je les ai pas lues en détail. Je suis arrêté au titre, on peut, ouais.
Ça t'a suffi.
Mais je pense que s'il y avait une réelle volonté de faire mieux, ils auraient pu. Mm. Mais c'est qu'ils ne l'ont pas. C'est qu'ils ne l'ont pas, parce qu'il faut... Entre guillemets, s'il y avait que les restaurateurs de fermer, parce qu'au final, il n'y a que ça, hein, les commerces sont ouverts, il n'y a que les restaurateurs et la culture. S'il n'y avait que les restaurateurs, ça aurait été un peu les boucs émissaires du truc et ça serait mal passé. Alors ils se sont dit, oh, bon, on va fermer la culture aussi, comme ça.
Est-ce que toi aussi, tu penses que justement cette crise, elle a justifié le fait que la culture, c'est très très important pour nos sociétés ?
Je pense que les gens s'en rendent compte. Après, en fait, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est culture et divertissement. Parce que divertissement, tu l'as. T'as Netflix, ah oui. T'as la télé, t'as des trucs. C'est du divertissement numérique, mais je veux dire, tu vois des films, c'est pas des trucs. La culture, c'est ce qui va créer le divertissement d'après. C'est-à-dire que sans la culture, t'as pas de cinéma. Il a fallu d'abord de la littérature pour arriver au cinéma. Donc si on veut faire évoluer le divertissement, il faut de la culture. Et la culture, aujourd'hui, on le voit. Alors, il y a mes chroniques, mais il n'y a pas que ça. C'est un des rares contre-pouvoirs qui reste. C'est un des rares moments où tu peux exprimer un truc divergent, où tu peux... Enfin, quand on voit les changements de société que la culture amène, c'est limite si tu as l'impression que vouloir la tuer, c'est pas un peu prémédité. Tu vois, t'as un truc... J'irai pas jusqu'à dire qu'ils font exprès, mais si ça peut être un dommage collatéral, ça passe. C'est pas grave.
D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Walizia, pour d'être venu sur News FM. Nous, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause pour la prochaine interview et on se retrouve juste après.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.